On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. Vous écoutez Radio BLV 93.6, c'est le moment de retrouver notre invité de 11h et quelques. Et aujourd'hui, cet invité, au lieu d'être seul, est double. Voilà, c'est toujours comme ça, on attend des choses et on a d'autres choses. Trêve de plaisanterie, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Gerland, microbiologiste et œnologue. Bonjour Christophe.
Bonjour Sylvie.
Et Serge Hénard, qui est membre du bureau de l'association Terre de Treille. Bonjour Serge.
Bonjour Sylvie.
Alors, on pourrait presque dire que Serge est l'invité de Christophe. Donc, voilà, c'est une mise en abîme, comme on dit quand on est, voilà, quand on veut faire intelligent. Toujours est-il que Christophe, effectivement, a proposé à Serge de venir nous retrouver autour du plateau. Et c'est pas tout à fait pour rien, on en parlera un petit peu plus tard. Avant de rentrer dans cette belle amitié, Christophe, il y a un rituel dans l'invité de 11h et quelques, et ce rituel, il est que l'invité nous raconte un petit peu son parcours. Alors, microbiologiste et œnologue, si on le fait a priori, ça n'a pas forcément grand-chose à voir, ça, de prime abord. Microbiologiste, donc on est vraiment dans la science. L'œnologie aussi, on est dans la science, mais on va dire qu'on a une dimension supplémentaire. Et est-ce que le petit Christophe se baladait déjà, courait dans les vignes, ou est-ce qu'il était plutôt derrière avec la boîte, par exemple, de mon petit savon chez moi?
Non, pas du tout. Il courait derrière un ballon de football. Donc, en fait, les premiers contacts que j'ai eus avec le vin et les vignes, c'est par des bouteilles de mercuré qu'amenait le parrain de ma maman pour Noël. Et j'ai fait des études, j'ai suivi des études sans trop savoir ce que je voulais faire. J'ai fait un doc de biologie et ensuite de la microbiologie. Et c'est à Marseille que j'ai découvert, en fait, qu'effectivement, la bière, le vin, le pain, c'était de la microbiologie. Et donc, n'étant pas issu du monde vitivinicole, j'ai fait mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur en microbiologie à Bordeaux, dans la microfiltration d'eau. Mais là, j'ai découvert le vignoble et je me suis pris de passion. Pendant mon armée, j'ai lu plein de livres sur l'œnologie, le vin et les jours d'Émile Pénaud, et bien sûr, quelques petits écrits de Pasteur, qui fut le premier microbiologiste du vin, puisqu'il a travaillé sur la santé, mis au point des vaccins, mais il a énormément travaillé sur le vin, puisqu'il y a une technique qu'on connaît plutôt dans le lait, qui est la pasteurisation, mais dans le vin, on utilise un petit peu, dans certains cas, la flash pasteurisation. Donc c'était un microbiologiste, et donc moi j'ai failli faire une thèse de doctorat sur l'œnologie à Bordeaux, mais je suis allé dans le plus pratique en travaillant dans des maisons de champagne. Donc voilà, c'est...
Pourquoi le plus pratique ?
C'est l'eau qui m'a amené au vin. Ben, disons que c'était sur du concret, puisque pour faire du vin, bien sûr qu'on a besoin de recherches scientifiques pour comprendre les phénomènes, mais il y a aussi besoin de travaux très très pratiques. Et j'ai commencé donc en 1990, au moment de la guerre du Golfe, dans le monde du vin, dans les champagnes, Pommeries et Lançon, pour déterminer les besoins en oxygène des levains qui nous servent à faire la seconde fermentation des vins effervescents, notamment les champagnes ou les clairettes de Die. Mais donc moi, c'était en champagne, et donc pour déterminer les besoins en oxygène de ces levures pour assurer effectivement qu'on ait une bonne seconde fermentation en bouteille.
Très bien. Alors donc, on est vraiment dans la science la plus... ce qu'on appelle les sciences dures ?
Je ne sais pas. Oui, c'est pointu. Hein. C'est vrai que le monde du vin... Alors, on touche un petit peu à tout, c'est-à-dire que bon, il y a déjà l'histoire, hein, puisque Les premiers vins datent de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ et l'origine de la vigne serait en Perse, en fait, entre l'Irak et l'Iran, et avec la Syrah, qui était un des premiers cépages découverts et qui est le cépage que, effectivement, les Grecs puis les Romains ont remonté, ensuite surtout les Romains ont remonté jusque dans la vallée du Rhône. Et donc, il y a de l'histoire, de la préhistoire, de la culture, de la géologie, les sols, les terroirs, effectivement de la chimie, de la biologie, et ensuite du marketing, les étiquettes, raconter des histoires. Bernard Pivot est un grand amateur de vin, il est originaire du Beaujolais. Et donc, il y a tout.
Il y a de la poésie, de la gourmandise.
Aussi, voilà, tout à fait.
La science philosophique.
On rejoint la cuisine, oui.
Et de la philosophie aussi. Si tu es notre invité aujourd'hui, c'est simplement au départ, parce qu'en fait, tu es basé sur. Ta société est basée sur Bourg-lès-Valence.
Et tout
donc,
à fait.
En creusant un petit peu les différentes activités qu'on peut trouver sur Bourg, eh bien, j'ai eu la surprise de découvrir cette société qui s'appelle Intelli Eno, qui est donc basée à Bourg, mais tu travailles de Bourg, mais tu travailles dans le monde entier. Alors, pour revenir à donc ton parcours en biologie, le petit Christophe qui a fait ses armes et puis qui petit à petit est arrivé dans les vignes. Comment est-ce que tu as travaillé, donc après avoir travaillé dans les maisons de champagne, est-ce que très rapidement tu as eu envie de mettre ton savoir au service de manière indépendante, ou est-ce que c'était tu as fait d'autres maisons, tu as travaillé dans d'autres maisons, dans d'autres vins?
Oui, alors j'ai travaillé après le Champagne Pommerie d'Ancon, puis le comité des vins de Champagne. J'ai travaillé 10 ans dans un laboratoire en Champagne, Station Oenotechnique de Champagne, qui conseille plein de petits producteurs et des moyens. Et moi, j'étais en charge de la recherche et du développement et je faisais des expérimentations avec les grandes maisons de Champagne, mais aussi d'autres vins de France entière. J'ai d'ailleurs sélectionné une levure dans les vignobles de Saint-Joseph qui est maintenant été vendue, cette levure, à travers le monde pour ensemencer les jus de raisin pour pouvoir faire des vins. Mais au bout de quelques années, j'avais besoin de faire plus et d'aller plus vers la viticulture. Et donc j'ai créé ma société en 2003. À la base aussi pour revenir sur Valence depuis la Champagne, même si mes deux fils sont nés en Champagne. Le climat du Sud est plus propice à plein de belles choses. Et j'ai créé ma société, mais comme c'était vente du conseil, de la matière grise, c'est pas facile. Pendant une petite dizaine d'années, j'ai travaillé pour une société internationale et donc j'allais à travers le monde pour aider à développer un produit naturel issu du blanc d'œuf et qui permettait, en l'utilisant dans le vin, et il a été autorisé à ajouter dans le vin pour mieux gérer les bactéries lactiques dans ces vins, les fermentations, en fait, il permettait de réduire les doses de sulfite ajoutées dans les vins. Donc ce conservateur qu'on peut retrouver dans les sachets de salade, dans le supermarché, ou dans plein de différents aliments, c'est en fait un composé qui a remplacé les résines de pin qui étaient utilisées par les Grecs pour conserver les vins. Puis ensuite, ça a pas mal évolué au cours des siècles. Et ça fait plusieurs siècles que les sulfites, on a le droit de les utiliser, soit pour gérer la microflore du raisin, pour éviter qu'on ait des mauvais goûts, soit pour lutter contre l'oxydation des vins, contre l'évolution trop rapide. Donc déjà, j'avais pas mal travaillé sur ce sujet et j'ai continué, et j'ai notamment dans la région. Plus au nord, quand il y a des pluies, il y a beaucoup de champignons qui peuvent se développer à la vigne, et donc de la pourriture qu'on appelle grise. Et plus on va vers le sud, moins on en a quand même. Et du coup, dans notre région, ici, c'est plus facile de faire de l'agriculture biologique et donc des vins biologiques. Et comme je suis microbiologiste, ça fait donc depuis 2003-2004 que j'accompagne beaucoup de vignerons bio pour les aider à mieux piloter les fermentations et l'élevage de leur vin. Et aussi sélectionner des levures ou des bactéries qui sont dans le vignoble et qu'on va essayer d'accompagner ou d'utiliser pour faire le vin à la place de levures qui sont toutes de toute façon issues du vignoble, mais que les industriels produisent en petits sachets pour que les vignerons puissent plus facilement démarrer la fermentation. Donc ça a pris un boom terrible dans les années 80-90, et maintenant on est revenu depuis une bonne décennie plus vers le plus naturel, en faisant effectivement des fermentations avec des levures indigènes qu'on rencontre sur les raisins et qui ensuite passent dans les cuves et font la fermentation. Mais pour le faire bien, pour éviter de faire le produit ultime qu'on fait à partir des raisins, qui est le vinaigre, eh ben, nous, les microbiologistes du vin, voilà, on accompagne les producteurs.
Parler des sulfites, c'est un peu le gros mot quand on parle de vin. On peut s'en passer complètement aujourd'hui ou...
Oui, tout à fait. Alors, c'est plus dur sur les vins liquoreux ou les vins moelleux, puisque s'il y a du sucre dans la bouteille, ben, s'il reste quelques petites bactéries ou levures, elles peuvent refermenter et donner du trouble dans la bouteille. Donc, il n'y a pas du tout de micro-organismes pathogènes sur les raisins ou dans le vin. Donc le pilotage, la gestion des micro-organismes, c'est plutôt par rapport au goût qu'ils peuvent amener, qui sont très importants. Et donc grâce à effectivement l'utilisation d'outils comme le microscope, d'outils comme ça, et donc les compétences de microbiologistes permettent effectivement de pouvoir bien gérer ces flores et aller, ce qui est un peu plus facile sur les vins rouges ou les vins blancs, vers effectivement des vins sans aucun sulfite ajouté. Mais non seulement c'est plus difficile à faire, mais aussi, comme les sulfites amènent une source de soufre que derrière les micro-organismes transforment en différents arômes, ça donne des vins avec des profils aromatifs et gustatifs différents.
Différents.
C'est pour ça que ça a mis du temps à effectivement rentrer dans les mœurs. C'est venu par toute la demande d'aliments naturels qu'il y avait. Et effectivement, c'était un peu dur d'être accepté parce que ça changeait pas mal le goût dans cet univers. Beaucoup de marketing où on a des ventes et des produits un peu internationaux, la concurrence des pays du monde qui nous ont récupéré nos cépages, nos recettes un petit peu, et donc qui, avec du grand marketing, arrivent sur les étalages. Donc là, effectivement, depuis une bonne décennie, il y a vraiment une forte augmentation des produits biologiques dans ces produits-là. Donc avec une agriculture bio, on a... effectivement, certains producteurs qui élaborent des vins sans sulfite. Alors, on peut aussi élaborer des vins qui n'ont pas le cachet, l'estampille bio, oui, mais qui sont élaborés avec une viticulture raisonnée, bien sûr, donc c'est encore une grande majorité, et de plus en plus raisonnée pour diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, il ne faut pas dire bio sans sulfite et les autres vins. Non, non, tout ça, c'est plus complexe et il y a plein de vins qui sont élaborés sans le label bio et qui sont très bons pour la santé, avec beaucoup de travaux à la vigne et dans la cave pour limiter les intrants et aller vers du plus naturel de plus en plus pour effectivement avoir des produits durables et faire que aussi l'impact de notre profession sur la planète soit le plus limité possible pour que ça profite à nos enfants, petits-enfants.
Tu as parlé d'une évolution du goût. Alors, évolution du goût, effectivement, due à cette façon différente de faire du vin. Mais c'est aussi, j'imagine, étant donné qu'on ne rajoute pas des choses, c'est avoir un goût différent aussi. Un même vin peut évoluer en goût parce qu'il est justement en vin naturel.
Oui, alors il y a plein
d'une
de...
D'une année sur l'autre,
oui, oui,
d'avoir pas forcément les mêmes caractères, le même caractère, ce qu'on a tendance à vouloir rechercher.
Oui, alors c'est vrai que dans la vente de tout produit, on veut que le consommateur reconsomme. Et dans les produits alimentaires, effectivement, les grandes règles, c'est d'avoir un goût toujours constant. Ça peut être vrai sur certains vins, notamment les champagnes les plus vendus, qui sont les brutes, mais qu'on appelle les brutes sans année, où on peut mélanger différentes années. Et ça, c'était parce que on est très au nord dans la Champagne et c'est difficile d'avoir des vins de qualité. Il y a des années où il y a beaucoup de pluie, où la qualité est un peu plus faible, et on a le droit de mettre des vins en réserve pour les assembler. Ce que l'on fait pas sur les autres vins. Cet assemblage des réserves avait été inventé d'ailleurs par des dames, la veuve Clicquot, la veuve Pommery, qui après la guerre 1870 avait pris la tête des maisons de champagne, malheureusement après le décès de nombre d'hommes. Et donc dans les autres vins, et pour les millésimés en champagne par exemple, Effectivement, le climat de l'année est très important et va donner des produits un petit peu différents. Donc, qui vont évoluer ensuite différemment, effectivement, avec le classique, avec les sulfites qui bloquent cette évolution. Et donc, les vins un peu plus naturels évoluent effectivement un peu plus vite. Après, il y a plein de moyens pour donner un goût particulier à un vin. Donc, la gestion, notamment, du contact ou pas avec le bois de chêne, qu'il soit un bois de barrique ou également des copeaux de chêne qu'on peut rajouter pendant l'élaboration du vin. Donc, il y a plein de moyens de jouer là-dessus. Et effectivement, un vin sans sulfite ajouté va être en fait plus variable d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, évoluer peut-être un peu plus vite, mais il va être un peu plus vivant aussi et subir un petit peu plus l'influence du climat, de la lune, des hautes pressions, de tous ces cycles lunaires. Et la biodynamie, par exemple, qui est une partie de la bio, tient compte de ces cycles lunaires. Donc c'est, vous voyez, un domaine très très vaste et qui fait appel à beaucoup de connaissances et de savoir-faire différents, donc passionnant.
Et de savoir-faire qui sont aussi bien des savoir-faire ancestraux que des savoir-faire scientifiques comme tu peux proposer. Ce qui est intéressant, c'est quand les deux se retrouvent aussi. Alors je propose de faire une respiration musicale et puis on en reparle tout de suite après. On écoute Summer Wine de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
And my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer.
The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all.
Summer Wine, Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Vous écoutez Radio BLV 93.6. C'est l'invité de 11h et quelques. Et aujourd'hui, j'accueille Christophe Gerlon, œnobiologiste, si je dis œnobiologiste, je vais me faire gronder, c'est microbiologiste et œnologue, pardon, et créateur de la société Intelli Œno. Et puis son invité, Serge Hénard, membre du bureau de l'association Terre de Treil. Alors pour l'instant, Serge, on ne t'a pas beaucoup donné la parole, mais c'est promis, ça va venir.
Pas de souci.
On parlait de l'accompagnement, donc qui est le cœur de métier de Intelli Œno, en fait, l'accompagnement notamment des viticulteurs sur des pratiques plus vertueuses, que ce soit le bio ou que ce soit la viticulture raisonnée. Dans ta clientèle, tu as quel type de profil ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes viticulteurs et viticultrices qui s'installent et qui sont à la recherche de conseils ? Ou est-ce que tu as aussi des viticulteurs historiques, entre guillemets, qui se disent un jour, bon, ça serait quand même pas mal de pouvoir un petit peu évoluer, de pouvoir faire évoluer, mais comment je m'y prends, de quelle manière, par quel bout je le prends ?
Alors, pour élaborer des vins bio ou des vins en biodynamie, c'est plus difficile, il faut beaucoup d'expérience. Et donc, en fait, moi, c'est pas ma spécialité, la viticulture, moi, c'est l'œnologie. C'est l'élaboration. Depuis le moment où on va contrôler la maturité des raisins et on les met en cuve, on fait la fermentation. Donc j'ai accompagné mes premiers clients. C'était plutôt des clients avec beaucoup d'expérience. Et donc où je les ai accompagnés, moi, dans des années où les outils microbiologie, microscope perfectionné, automatisé, des contrôles de génétiques même, hein, des tests, on en parle maintenant beaucoup, ADN, PCR, etc. Mmh. Donc j'ai apporté ça pour les aider justement à accompagner les bonnes flores et éviter que celles qui donnent des mauvais goûts puissent prendre le dessus. Et en fait, le lien avec la jeunesse, je l'ai plutôt fait par tous ces jeunes stagiaires, que ce soit en bac pro, en BTS viticulture œnologie, en BTS analyse biologique, des ingénieurs aussi d'écoles de biotechnologie, des étudiants œnologues, donc qui venaient là nous aider dans ces moments de vinification et qui apprenaient aussi avec les ingénieurs agronomes ou les vignerons eux-mêmes qui, avec leur expérience de la culture de la vigne, leur amenaient cette partie-là. Et puis moi, j'étais plus sur les aspects hygiène, contrôle microbiologique des flores. Donc ça a été dans ce sens-là. Et souvent, ces jeunes qui, je pense par exemple là, donc j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore avec le domaine Alain Vosges, monsieur Vosges, avec donc son gérant qui a été pendant de nombreuses années, monsieur Albéric Mazoyer, qui est un ingénieur agronome qui a démarré la viticulture biologique chez Chapoutier. Et donc on prenait des jeunes pour un petit peu nous aider à faire le travail, faire les expériences. Et y en a par exemple un qui a monté sa cave qui s'appelle Rémi Naudin, et qui est maintenant au pied du château de Crussol et qui est devenu un des vignerons importants des appellations Saint-Péray et Cornas. Donc effectivement, par mon métier de conseil et les apports que j'ai pu faire, et bien, ça a nécessité effectivement de former des jeunes et de faire effectivement cette symbiose entre les vignerons avec leur expérience de terrain et puis nous, les plus jeunes et les scientifiques et les techniciens, et bien d'attirer justement cette jeunesse vers une viticulture à la fois toujours plus respectueuse de l'environnement, mais aussi intégrant des nouveautés scientifiques pour mieux comprendre ce qui se passait et faire les choses naturelles, mais en les comprenant et en les accompagnant.
Effectivement, c'est un peu comme si on avait si tu soulevais le voile finalement de tout ce qui se passe au cœur du processus qu'on pouvait ignorer jusque-là, ou en tous les cas que certains pouvaient comprendre de façon un peu empirique, mais pas nécessairement dans l'intérieur de ce qui se passe et sur l'aspect scientifique. J'imagine que, enfin bon, on le sait, le vin, ok, le vin c'est un produit comme un autre, on peut dire peut-être, mais c'est avant tout des humains. Ça commence par là, en tous les cas, c'est des humains passionnés, on le voit chez les vignerons. Est-ce que tu as eu parfois, tu as été en but avec certains qui avaient un peu, alors soit qui avaient du mal, soit qui au contraire ferraillaient un peu avec toi sur certains sujets.
Bien sûr, je me souviens, j'étais tout jeune, la première fois que je suis arrivé vraiment dans un vignoble, c'était dans le Beaujolais pour faire une vendange. Alors j'avais commencé déjà à travailler au comité des vins de Champagne. Et j'arrivais chez des vignerons et tout de suite, en disant que j'étais microbiologiste, j'étais celui qui allait amener des levures commerciales, industrielles et changer le goût du Beaujolais. Et sinon, aussi à d'autres moments, on me voyait un petit peu comme un hygiéniste qui voudrait peut-être stériliser les caves pour faire des vins plus propres et avec un arôme un peu plus standard et un peu le même à travers le monde. Surtout que j'ai voyagé pendant plus de 20 ans dans la plupart des plus grands pays viticoles du monde. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de ferraillage. Et puis pour aussi terminer sur les dernières années, dans les vignerons du Salon des Cépages Oubliés, il y en a beaucoup, il y a quelques anciens, il y a aussi des jeunes, mais tous ont cette philosophie justement de servir de vieux cépages et aussi de vieilles méthodes de vinification. Et effectivement, avec une levure dont je suis un peu un des quelques grands experts à travers le monde, qui amène un goût animal, là, qu'on appelle Brettanomyces, parce qu'elle a été découverte en Grande-Bretagne, plutôt dans le cidre, qui amène ce goût animal. Effectivement, ce goût animal, il plaisait il y a 20 ans, 30 ans, et de plus en plus, les consommateurs modernes recherchent le fruit, l'expression vraiment du raisin, du terroir, et ce côté animal. Avant, on pouvait le cultiver, ces quelques levures qui donnaient ce goût-là. Maintenant, au contraire, on essaye de ne pas les avoir. Donc, sur ce thème-là, qui rejoint aussi le goût, donc le goût est personnel à chacun.
L'évolution, surtout,
il y a effectivement beaucoup de... Ça a engendré beaucoup de discussions, mais souvent, c'était autour de bons plats et de bons vins. Donc,
ça se finit
toujours bien. Jamais en bataille.
œnologue, qu'est-ce que c'est qu'un œnologue ?
Alors, un œnologue, c'est en fait un technicien du vin à la base. Donc, il faut faire des études scientifiques. Et ensuite, après un bac en général scientifique, on va faire un diplôme, soit un BTS, ou maintenant ça s'appelle licence en 3 ans, sur la viticulture et l'œnologie. Mais il y en a aussi qui font des licences de chimie ou de biologie. Et derrière, il y a 3 années de spécialisation. Donc, il y a des centres dans les grandes régions viticoles. Montpellier, il y en a 2, Toulouse, Bordeaux, Reims, Dijon. Et donc, pendant ces 3 années, on apprend tout ce qu'on doit savoir, plus spécialement au niveau de la viticulture et de l'œnologie, bien sûr avec les différentes sciences que je vous ai citées, mais sur des cas pratiques et avec une partie de présence, de travail sur le terrain dans les différentes maisons de vin qui permet de pratiquer. Donc les métiers ensuite des œnologues peuvent être, on peut très bien être commercial, vendre des bouchons, des étiquettes, des bouteilles, des barriques, des fûts de chêne, des cuves, des pressoirs, de la technique. Vous avez aussi les œnologues qui sont dans les maisons de vin moyennes ou grandes, donc les directeurs de production, ceux qui vont être un petit peu plus sur le terrain, dans les grandes maisons de champagne ou ici les grands négociants, j'ai cité un nom tout à l'heure, il y en a plein d'autres, où il faut accompagner les vignerons à qui vous allez acheter des raisins, donc le transfert. Et puis vous avez aussi tous les conseillers, il y en a pas mal dans chaque région, ici sur Tain-l'Hermitage, Valence, près de Vienne, où vous avez ces œnologues consultants, conseils, qui ont souvent un laboratoire d'œnologie. Comme vous avez des laboratoires d'analyse médicale, les pharmaciens et les médecins, là, l'œnologue a un peu cette multicompétence de pouvoir faire ces différents métiers, à la fois conseil et aussi de donner un petit peu la prescription sur à quel moment...
On y fait quoi dans ces laboratoires d'œnologie ? Voilà. C'est donc, quoi un laboratoire d'œnologie ?
Donc, on va y faire des analyses chimiques, de l'alcool, du sucre,
donc c'est
des analyses avec des appareils, des appareils.
Des échantillons, pardon, de
vin ou de raisin prélevés effectivement dans les vignes et dans les caves. Ensuite, on fait beaucoup de dégustations, bien sûr. L'analyse sensorielle est très importante, que ce soit des raisins et surtout des vins pendant toute l'élaboration jusqu'à l'assemblage final. Donc bien sûr, tout ça est maintenant très légiféré, donc on doit avoir toute une méthodologie pour faire ces analyses, agréées. Et vous avez certains œnologues même qui peuvent être assermentés auprès des tribunaux si jamais il y a des litiges sur des problèmes de qualité sur les vins. Et donc ça, c'est dans les laboratoires. Après, même, je ne l'ai pas cité, mais vous avez des œnologues qui sélectionnent les vins pour les grandes chaînes de supermarchés ou les cavistes ou autres. Et après, on approche, plus on va vers le produit final et la bouteille, plus on se rapproche d'un autre métier très complémentaire, qui est le métier de sommelier, qui, eux, sont là pour, effectivement, décrire les vins, les proposer, soit des sommeliers cavistes qui sont dans les caves de vente de vin, ou alors aussi les sommeliers des restaurants qui vont pouvoir, eux, c'est les grands spécialistes de l'adéquation des mets et des vins, même si, Serge en est un exemple, tout le monde est capable, en tout cas est intéressé à essayer de trouver le vin qui va bien avec tel ou tel plat.
Tu parlais de voyage tout à l'heure, tu as travaillé un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on a une culture du vin très différente, qu'on soit en Australie, en Argentine ou en France?
Oui. Puedo responder en castellano.
Or in English.
Non, alors c'est vrai que Californie, Australie, Afrique du Sud, c'est anglo-saxon. Donc c'est un petit peu plus business et un peu industrie et agroalimentaire, même s'il y a aussi, bien sûr, des bio, des plus petits, des traditions et autres. Et au niveau de l'Argentine, Chili, là, on se retrouve en droite ligne un petit peu des trois grands pays viticoles avec leurs grandes traditions qui rejoignent les religions, qui rejoignent tout ça, donc France, Espagne, Italie. Et donc, Argentine, Chili, c'est vrai que c'est un petit peu plus vibratoire, sentimental et... dans des pays d'Amérique du Sud où il y a encore beaucoup plus, il demeure beaucoup plus de croyants, c'est beaucoup plus lié avec toute la vie à la fois religieuse, familiale et effectivement la consommation de vin.
Tout à fait.
La consommation de vin est très très ancrée dans ces pays d'Amérique du Sud. Alors sur des bases beaucoup françaises, puisque les cépages, la plupart des cépages qu'on retrouve hors des trois grands pays européens, ce sont des cépages originaires soit d'Italie, d'Espagne, mais surtout plus de 80% de France, parce qu'on a eu une culture, nous, de pratiquer la science, d'intégrer les sciences dans le monde de la viticulture et de l'œnologie de manière plus ancienne que les autres pays.
Donc on boit différemment, que ce qu'on soit d'un endroit ou un autre.
Oui.
Tu penses que c'est vraiment culturel?
Oui, alors après, avec ce qui rejoint tout le monde, alors les anglo-saxons boivent beaucoup en fin d'après-midi. Et en sortant du travail, et dans les autres pays, France ou Argentine, Chili ou autre, c'est plus pendant les repas. Mais tout ça bouge beaucoup, puisqu'on le voit avec tous ces magasins qui fleurissent, effectivement, aussi des habitudes qui se croisent.
Et alors, justement, pour revenir, on boucle un peu la boucle, mais on a parlé de goût tout à l'heure, on a parlé de travail sur le goût. Est-ce qu'il y a vraiment une demande différente selon les continents, selon les pays, en matière de produits, du coup, et de goût du vin?
Oui, alors, on n'a pas parlé de la Chine ou des pays asiatiques.
Par exemple,
et c'est effectivement,
vrai.
Ils se sont mis un peu plus tard au vin. Alors, c'est encore beaucoup marqué par l'aspect prestigieux. Donc, en Chine, ils boivent encore beaucoup. Ils s'achètent et se vendent et se consomment beaucoup de grands vins pour impressionner un petit peu ses invités, avec les grands crus de Bordeaux, de Champagne, de Bourgogne ou autre. Mais les Australiens, très tôt, donc dans les années 90-2000, on a vu en fait la prédominance des trois grands pays viticoles, France, Italie, Espagne, baisser au profit des Australiens, des Américains et des Sud-Africains et des Sud-Américains. Et donc ces pays-là formulent un peu plus leur vin en fonction des marchés à qui ils veulent le vendre. Bon, alors, ça a été dans un premier temps en ayant un petit peu plus de sucre dans les vins, en laissant un peu plus au fin des fermentations, en bloquant un petit peu pour avoir plus de sucre. Et après, pour adapter un petit peu les goûts. C'est vrai que les vins très épicés, on a la chance avec la Syrah d'être là-dedans, donc ça plaît aussi beaucoup en Asie. Mais en allant un petit peu plus vers l'épice, en jouant sur l'élaboration en fût de chêne, les types de fûts, effectivement, on peut effectivement bien adapter. Après, il y a la jeunesse qui arrive. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup les goûts changer. À l'heure actuelle, moi, je le vois avec mes deux fils qui ont 21 et 24 ans. Effectivement, il y a les vins sucrés plaisent beaucoup à la jeunesse, qui est malheureusement habituée à ces sucres. Mais tout ça, effectivement, évolue ensuite avec les années.
Alors là, puisque tu es microbiologiste, est-ce que on dit souvent que quand on est jeune, on n'a pas le palais n'est pas suffisamment fait pour apprécier du vin, pour apprécier véritablement le vin, et c'est pour ça que les jeunes sont souvent un peu éloignés. On entend souvent des très jeunes, une vingtaine d'années, dire moi je n'apprécie pas le vin. En fait, est-ce qu'il y a vraiment cette expression se faire le palais, est-ce qu'elle est réelle?
Oui, alors il y a deux choses. Il y a, moi, ce que je peux dire, mon expérience personnelle, et après, il y a la science qui étudie tout cela. Donc, l'expérience personnelle, c'est vrai que moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne buvais pas trop. Les vins, je n'aimais pas vin rouge.
Temps, c'est un peu normal.
Avec les tanins. Oui, mais vous savez, dans la pratique paysanne, dès l'âge de 10-12 ans, quand les jeunes travaillaient très très tôt avec leurs parents agriculteurs, on donnait pas de la grenadine ou de Coca-Cola, mais
de l'eau,
du vin dilué, fortement dilué avec de l'eau. Et c'était très bon à la santé. Et donc là, c'est vrai que en vieillissant, petit à petit, effectivement, après la trentaine, on va un peu plus apprécier les différences entre les vins. Moi, je sais que beaucoup de jeunes rentrent par les arômes dans le monde du vin. Parce qu'il y a effectivement d'abord les arômes et après le goût en bouche. Et le goût en bouche, c'est avec l'acidité, les tanins qui assèchent la bouche. C'est vrai que ça peut être pris un petit peu comme pas trop agréable par rapport aux autres boissons alcooliques qui peuvent être plus douces. La bière a une acidité moins importante que le vin. Et après, au niveau scientifique, bien sûr, les scientifiques peuvent commencer à étudier sur les jeunes pour la consommation de boissons alcooliques à partir de 18 ans. Mais il y a peu d'études comme ça qui marquantes qui peuvent expliquer. C'est plus un comportement. Alors après, on sait que l'alcool qui est dans les boissons, et ça, moi, je le connais très bien en tant que praticien et formateur sur les arômes des vins. Quand vous avez de l'alcool dans une boisson, la consommation d'alcool, l'alcool est détecté par un nerf qu'on a dans la joue, qui s'appelle le nerf trigéminal. Et quand il détecte de l'alcool, il va informer le cerveau que, attention, là, ça peut être dangereux. C'est ce qui ensuite explique le coma éthylique. Et donc, D'accord. Nos sens se ferment. Donc ça, c'est quelque chose de physiologique et qui existe depuis très très longtemps. Et l'homme a appris...
C'est une sécurité, quoi.
Voilà.
C'est la soupape de sécurité.
Tout à fait. Alors, après, vous avez le binge drinking, là, et les jeunes qui, au bout d'un certain temps, prennent des modèles et puis consomment de l'alcool très très vite pour être ivres. Donc là, ils passent outre tout ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent pour orienter un petit peu son approche par rapport à la consommation de vin. Mais tout ça est très complexe.
Ils sont plus dans des comportements, en fait, que dans
l'appréciation.
Dans l'appréciation, dans une culture du vin, quoi, surtout.
Alors,
c'est un comportement festif. Oui, c'est l'ivresse qui est recherchée, ouais. pas nécessairement la qualité et le goût.
Et quand on est œnophile et qu'on s'intéresse vraiment et qu'on prend ça comme passion, dans les dégustations qu'on fait, on va recracher le vin. Dans le métier d'œnologue, c'est obligatoire, on le fait, même s'il y a un petit millilitre à peine qui passe à chaque fois. Il faut faire très attention à ça. Mais dans les clubs d'œnologie, dans la plupart, on va recracher. Après, il y a bien sûr des moments un peu plus conviviaux où on termine toujours par une dégustation avec quelques bons fromages ou autres charcuteries. Mais effectivement, on va recracher. Donc là, l'alcool est mis de côté pour privilégier le sensoriel sur l'essentiel. Les parfums, les odeurs des vins et également les sensations gustatives.
Je vous propose de faire une deuxième petite pause musicale. On va rester dans le vin. C'est Vive le vin, c'est Chanson plus bifluoré.
Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Chinon, Tursan, Sainte-Croix, Dumont, Châteauneuf ou Beaujolais, Lirac, Médoc, Champagne, et Puligny, Montrachet, en cave obscure vieillirait et prendrait de belles années.
Puis un jour une main tremblante doucement vous redressera et suivra la noble poussière et vous monterez en silence les escaliers de vieilles pierres pour arriver jusqu'au salon. Là, vous ferez l'admiration, c'est aujourd'hui anniversaire.
Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Pomard, Canton, Clos, Saint-Denis, Givry, Romane et Conti, Coteau du Languedoc, Margaux, Saint-Véran, Pouilly, Locher. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier.
Et comme un rêve qui s'achève, la soirée se terminera, laissant les rives dans les verres, laissant bien vides les bouteilles et tous ces vieux bouchons de liège finiront leur vie de bouchons là dans le buffet du salon, dans un tiroir. Quelle misère.
Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Chinon, Tursan, Sainte-Croix, Dumont, Châteauneuf ou Beaujolais, Coteau du Languedoc, Margaux, Saint-Véran, Pouilly, Locher. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Laissez-nous vous remercier. Laissez-nous, 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 oh laissez-nous, oh laissez-nous, laissez-nous vous remercier. Laissez-nous, laissez-nous, oh laissez-nous, oh laissez-nous, laissez-nous vous remercier. Wow!
Chanson plus bifluorée, vive le vin, c'est toujours aussi agréable de les avoir dans les oreilles, ceux-là. C'est l'invité de 11h et quelques, vous écoutez Radio BLV 93.6 et aujourd'hui on parle vin dans toutes ses formes, sous toutes ses formes, avec Christophe Gerland, microbiologiste, je vais y arriver, microbiologiste, non pas qu'on boive, je vous assure, mais j'ai plein de papiers en fait de partout, vous savez, c'est toujours pareil, et œnologue, et Serge Hénard, membre du bureau de l'association Terre de Treille, et justement, on y vient à cette association Terre de Treille que j'avais eu le plaisir d'écouter. Alors voilà, Voilà, ça c'est très joli. Bon, à boire avec modération, bien évidemment, etc., etc., etc. D'ailleurs, comme le disait Christophe tout à l'heure, on n'est pas obligé non plus de boire, on peut simplement déguster par les narines, par les arômes et se faire plaisir de cette manière-là. L'association Terre de Treille, effectivement, vous avez accueilli il y a quelques années déjà pour votre à l'occasion du salon que vous organisez chaque année sur Chabeuil. L'association Terre de Treille, c'est le travail sur les cépages oubliés.
Voilà. Donc en fait, on travaille surtout sur la promotion de ces vieux cépages, c'est-à-dire essayer de les faire découvrir à nouveau donc auprès du public, et donc surtout par le biais de notre salon qui se déroule toujours aux alentours du 11 novembre, donc c'est le week-end avant ou après le 11 novembre,
à Chabeuil,
donc à l'espace culturel de Chabeuil.
Et salon qui, bien évidemment, en 2020, n'a pas pu avoir lieu.
Salon qui n'a pas pu avoir lieu, effectivement, malheureusement, comme tous les salons.
Absolument. Mais donc, vous rattraperez en 2021.
Donc là, on va essayer de se rattraper, puisqu'on a prévu les 5 et 6 juin, ce qui va se rapporter un petit peu à un salon, mais qui va se dérouler en plein air, dans Chabeuil. Dans la cour d'une ancienne école qui est la maison des associations de Chabeuil d'ailleurs. Et donc normalement, pour l'instant, on a déjà 11 de nos vignerons qui doivent y participer. On espère que les autres suivront. Et donc ça sera un peu le même process. Il y aura de la dégustation. On espère qu'il pourra y avoir de la dégustation. Que ça sera possible d'ici là. Et donc de faire pouvoir travailler nos vignerons.
Rendez-vous en juin. Alors on vous a fait entendre le doux bruit du bouchon qui sort de sa bouteille. Vous nous avez alors c'est Christophe qui nous a apporté un vin justement de ces cépages anciens. Parce qu'on entend dit cépages oubliés, ils ne sont pas tous oubliés. En tous les cas, il y en a qui sont remis au goût du jour. Qu'est-ce que tu nous as apporté là?
Donc, ce vin est un vin de l'Isère, près du Touvet, après Grenoble, entre Grenoble et Chambéry. Donc, ce sont des vignerons qui ont replanté différents vieux cépages. Celui-ci s'appelle l'Étraire de la Duye. Donc, en fait, il s'était perdu dans une des vallées des Alpes, dans l'Isère. Et comme on a, avec le réchauffement climatique, tendance à avoir avec les grands cépages connus, ici, Syrah, Grenache, mais un peu plus au nord, Pinot Noir, Chardonnay. On a tendance à avoir des vins de plus en plus alcoolisés. Ces anciens cépages, qui ont été moins cultivés, eh ben, ils sont mûrs un petit peu plus tard, et donc on a des vins avec 1 à 2 degrés d'alcool en moins. Et aussi, comme ils sont plus robustes, ils n'ont pas été cultivés à outrance, ils sont naturellement plus résistants aux maladies, le mildiou, l'oïdium, le botrytis, la pourriture grise. Donc du coup, ils sont moins traités à la vigne. Donc c'est des vins qui, effectivement, sont intéressants par ces deux aspects. Et au niveau gustatif, souvent, c'est des vins un petit peu plus rustiques, mais dans le bon côté de ce mot-là. Donc ils rappellent, souvent on a des gens qui viennent au salon et qui nous disent « Ah, on dirait que le vin de mon grand-père ». Il y en a même qui viennent avec le nom du cépage. Alors des fois, on a des bacots, des anciens noms d'hybrides qui étaient plus...
Le plein temps.
Voilà, qui ont été mis de côté pour des aspects à l'époque de production un petit peu de méthanol. Là, il y a une resélection qui a été faite. Et maintenant, par exemple, on a un des vignerons qui s'appelle Monsieur Jamet, qui a une cave en Saint-Joseph, à Arras, mais aussi à Porte-les-Valences, et qui fait des vins, donc les classiques Syrah, Roussanne, Marsanne, mais aussi des anciens cépages. Et comme il était à France Agrimaire, il a été un des fers de lance. Il est maintenant vice-président du Centre d'embellographie alpine, qui est un peu un conservatoire, qui a été un peu patronné par Monsieur Gallet, qui a été un des plus grands écrivains, professeur de viticulture, qui a écrit des livres sur la connaissance des cépages. Et donc, il vient de faire autoriser, Monsieur Jamet, 9 anciens cépages dans l'appellation IGP Colline Rhodanienne. Et donc, dont notamment la maman de la Syrah, hein, la Syrah qui compose les Croz Hermitage, Cornas, Saint-Joseph, Côte-Rôtie. Donc c'est la Dureza. Et il y a eu un croisement naturel, il y a des siècles, voire même peut-être dire des millénaires, entre la Mondeuse blanche de Savoie, qu'on retrouve en Savoie, et cette Dureza, qui venait plutôt de l'Ardèche à la base, et qui a donné la Syrah. Donc en fait, en plantant dans les parcelles, pour l'instant, que disait GP, collines rhodaniennes, et on espère ensuite des Croz Hermitage ou autre chose que de la Syrah en rouge, avec d'autres vignes, en fait, les petits ravageurs, les champignons, milieu, oïdium, vont avoir plus de mal à se développer, et donc on va avoir une protection naturelle un peu supérieure, et donc on va utiliser dans un futur très proche moins de produits phytosanitaires à la vigne.
Là aussi, la diversité est notre arme, et est un plus de partout. Ces cépages, pourquoi on les appelle oubliés, ou en tous les cas le cépage ancien, pourquoi en général ils ont été mis de côté? Alors tu as parlé de production d'un peu de méthanol. Est-ce qu'ils étaient plus compliqués à cultiver? Est-ce qu'ils produisaient moins? Et puis il y a eu au niveau des maladies aussi. Est-ce que les maladies ont été plus virulentes chez ces cépages-là?
Non, ce sont des cépages qui ont été abandonnés au profit des nouveaux cépages, enfin comme le Grenache, la Syrah, tous les cépages actuels. Qui était aussi beaucoup plus facile à vinifier que ces cépages anciens qui avaient ce côté effectivement rustique, un peu plus oxydatif.
Est-ce qu'ils avaient souffert? Est-ce qu'ils ont souffert du phylloxéra, eux, d'ailleurs, ces cépages?
Ils ont souffert aussi, mais bon, après...
Pas plus que...
Économiquement parlant, en tout cas, ils ont été abandonnés parce qu'ils ne rentraient plus dans les caractéristiques commerciales du moment. Donc,
c'est vrai que si on regarde la couleur ou les arômes, la Syrah est un peu supérieure comparativement à la Dureza. Mais il y a d'autres aspects qui avaient fait qu'elle a été sélectionnée à l'époque. C'est dans les années 1900-1950... le climat était beaucoup plus rude et donc on cherchait des clones de raisins à l'époque. Il y a eu des sélections clonales qui mûrissent plus vite. Et donc là maintenant, c'est tout le contraire avec le réchauffement climatique qui s'est énormément accéléré. Qu'ils mûrissent plus lentement. Donc ce qui était un inconvénient à une époque est devenu un avantage pour ces cépages anciens. Et on peut même citer un qui effectivement est beaucoup moins connu, mais qui est en train de prendre de l'importance dans le sud de l'Ardèche, c'est le Chatu, par exemple.
Le Chatu qui n'a jamais disparu, mais qui effectivement est très concentré sur une région très très précise.
Sur la basse Ardèche, quoi, essentiellement. A priori, il y en a eu un petit peu aussi sur la Drôme, au niveau de la région de Saint-Donat. Un petit peu, mais surtout sur l'Ardèche, oui. Effectivement.
Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à l'économie, c'est que on assiste à une replantation un peu dans des endroits qui avaient été abandonnés au moment du phylloxéra, du fait aussi de la pression de l'urbanisme dans cette belle vallée du Rhône, du manque de place et aussi de maintenant beaucoup de parcelles sur les terrasses, plus difficiles à cultiver que quand on se retrouve, justement, tu citais, au nord de Saint-Donat, en allant vers Épinouse, en allant vers le facteur Cheval, ces zones-là et d'autres. Et en France, c'est un petit peu partout pareil. Donc, on voit des gens qui arrivent aussi avec une démarche différente, de ne pas vouloir copier ce qui existe, mais de se différencier, parce qu'il y a maintenant tellement de concurrence internationale sur ces grands cépages, hein, Syrah, Chardonnay, Pinot Noir,
on en fait partout,
Cabernet, Merlot, que là, hop, on arrive justement avec quelque chose de plus local. Ce qui se passe en ce moment
coup,
avec le Covid,
plus de personnalité aussi.
Oui, ce qui se passe en ce moment va en faveur de ce genre de cépage, parce que le local va être favorisé. Et donc, du coup, on voit effectivement des vignerons qui, même s'ils sont dans la difficulté en ce moment, comme tout le monde, ont eu un plus et ont pu valoriser ces vins mieux. Et c'est important parce qu'ils sont plus difficiles à cultiver. Mm-hmm. Pour trouver des cèpes de vigne, hein, les pépiniéristes, ils n'étaient pas chalandés pour l'instant. Donc, il y a un gros travail plus important à faire.
C'est partout en France qu'on trouve des petits cépages comme ça ?
Oui, il y en a de partout en France, hein, enfin, qui sont tous différents. Pour en revenir à la région, c'est vrai que si on prend par exemple le nord de la Drôme, où donc nous avons un viticulteur, Lionel Brenier, qui est maître de chez Cuilleron.
Un des vignerons de la Vallée du Rhône.
Bon, sa démarche à côté de cette activité-là, c'était de replanter ces cépages locaux et sur des terrains qui ont eu accueilli de la vigne. Mm-hmm. Mais entre-temps, avec l'évolution de l'agriculture, il y a eu tous les vergers qui disparaissent à l'heure d'aujourd'hui par des champs de céréales, remplacés par des champs de céréales. Lui, sa démarche, c'est de replanter de la vigne. Alors bien sûr, c'était pas un territoire qui était en appellation. Et au contraire, peut-être des Ardéchois qui, certainement, ont toujours gardé peut-être des plants de Chatu, hein, certainement, au même titre que les hybrides, qui n'ont jamais détruit, fondamentalement. Et après, dans toutes les régions, effectivement, il y a d'anciens cépages, alors après, qui se retrouvent au hasard par des recherches dans la nature, on tombe sur des plants qui sont là dans un bois, dans un champ, dans des treilles qui appartiennent à des particuliers. On retrouve comme ça et on peut remonter la filière pour recréer ces cépages-là.
Donc en Champagne, par exemple, il y a sur les 30 000 hectares, il y a uniquement une petite dizaine, voire maintenant peut-être vingtaine d'hectares seulement, qui ne sont pas ni Chardonnay, ni Pinot Noir, ni Pinot Meunier, mais Arbane, Petit Mélier, Pinot Blanc, Pinot Gris, donc très peu cultivé, donc ça revient au goût du jour. Monsieur Brenier, là, lui, a planté du Villard Noir, du Villard Blanc, vraiment des anciens cépages, à côté de sa Syrah et de sa Roussanne. Il a aussi du Persan de Savoie. Il fait des assemblages aussi, donc c'est des jolis noms. Et au niveau agriculture et paysage, c'est intéressant, c'est qu'avant, quand dans ces régions-là, on a commencé à faire un petit peu plus de culture, ils avaient supprimé les haies. Il les replante, il en refait, il met des nichoirs à oiseaux. Donc il va vers effectivement du durable, de l'écologique. Donc on a, c'est vrai,
biodiversité.
Voilà, on parlait de diversité, c'est vraiment le maître mot de toute façon dans un peu tout finalement. On arrive à la fin de cette émission déjà, on a passé, c'est très agréable, on resterait très très longtemps. Le vin que vous avez ouvert est une petite merveille, c'est très très agréable, c'est très très agréable à déguster. On ne devrait pas le dire à l'antenne, mais c'est pas grave, vous n'avez rien entendu. Juste avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit Terre de Treille, si certains et certaines qui écoutent ont envie de se rapprocher de l'association, soit parce que ce sont des passionnés qui ont envie de participer à la vie de l'association et de découvrir encore plus, soit parce que ce sont elles-mêmes ou eux-mêmes des viticulteurs ou des joyeux découvreurs de cépages.
Donc je laisse le temps à Serge de retrouver sa carte. Pour ce qui concerne Intellieno, donc je suis mon laboratoire, c'est plutôt pour les professionnels aux 7 côtes Saint-Pierre, mais j'ai lancé aussi là au 1er janvier une activité que j'avais déjà un tout petit peu qui s'appelle les courtiers scientifiques. Donc je vends un tout petit peu de vin, mais juste pour démarrer et ensuite passer la main aux cavistes traditionnels sur justement des cépages anciens qu'on ne voit pas nécessairement, des vins sans sulfite et aussi les nouveaux croisements dont on n'a pas parlé, puisque bien sûr les grandes appellations françaises, que ce soit la Champagne, Bordelais, Côte-du-Rhône, Val-de-Loire, etc., ont aussi cette démarche plus longue, parce que, bien sûr, c'est des enjeux économiques bien plus importants et avec la nécessité de ne pas perdre des marchés. Et donc, on voit des croisements qui se font, effectivement, entre la Syrah avec d'autres cépages, le Grenache, le Chardonnay, le Pinot Noir, et qui amène des vins nouveaux. Et donc, moi, je les fais déjà déguster, que ce soit dans mon petit appartement transformé en laboratoire pour l'instant, et également sur le stand donc, que j'ai au niveau de notre salon des cépages oubliés à Chabeuil, et donc vous pourrez retrouver en juin puis en novembre. Donc l'association est basée à Chabeuil, notre présidente est
chabeuilloise,
et
beaucoup sont... on vous retrouve sur...
Donc nous avons un site internet qui s'appelle donc association terre de trail .wordpress.com. Et on a également une page Facebook donc, qui s'appelle Association Terre de Treille.
Au pluriel.
Voilà. Au pluriel. Je m'en rappelle.
C'est bien. Ça, c'est Association Terre de Treille.
On la retrouve.
La page Facebook.
Il faut bien mettre Association devant. Surtout.
Voilà, Association Terre de Treille. Et sinon, c'est Intelli Henault et au 7 Côte-Saint-Pierre. Et là, c'est pareil, Intelli Henault. Vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche, ça fonctionne très, très bien. Je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
Et puis, longue vie à la dégustation sous toutes ses formes et à la gourmandise. En général, vivement qu'on puisse retrouver justement cette gourmandise partagée.
Merci.
Merci.
On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que tu en penses ?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Thank you.